Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la déshonorer. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Merci. Alors, l'évangile de Matthieu a été écrit par un juif, pour des juifs, en tout cas au départ. Et pour les gens de cette culture, la généalogie qu'on n'a pas lue, hein, qui vient des versets antérieurs, c'est une façon d'établir l'identité d'un personnage. Matthieu a montré que Jésus est profondément enraciné dans ce peuple juif et qu'il s'inscrit dans l'histoire de ce peuple. Mais la suite de ce passage que nous venons de lire nous montre qu'il a certes des racines, mais la branche principale de son arbre généalogique, elle est directement reliée au ciel. Avec la généalogie des premiers versets, nous étions dans l'histoire avec un grand H, faite de patriarches et de rois. Là, à partir du verset 18, on zoome sur un couple lambda, et c'est l'intervention de Dieu qui va rendre ce moment incroyable. Les généalogies humaines ont atteint leur limite. Dieu intervient directement ici, par l'action du Saint-Esprit, en rendant Marie enceinte. Matthieu, contrairement à Luc, ne précise pas, ne mentionne pas l'annonce faite par l'ange Gabriel, qui reçoit en toute simplicité la merveilleuse révélation d'une conception hors du commun. Cela nous montre que oui, Marie sera effectivement enceinte, mais ce fils sera surtout le fils engendré par Dieu. L'intervention de Dieu dans la vie de ce couple va bouleverser un petit peu leur quotidien. Ils étaient fiancés. Ça veut dire quoi être fiancé à cette époque? C'est ne pas être encore marié. Donc ils ne vivaient pas ensemble. Ils ne sont plus célibes. Mais on le voit dans ce passage, Joseph n'est pas dans le secret. Et vous imaginez un petit peu sa réaction quand il apprend que sa fiancée, sa promise, est enceinte. Si elle est enceinte, naturellement, qu'est-ce que cela veut dire? Que Marie a connu quelqu'un d'autre. Mais Joseph est présenté comme un homme de bien, un homme juste, selon la traduction que Marie-Claire vient de lire. Et le texte met en scène cette notion. Le texte dit qu'il ne veut pas la livrer au déshonneur, par exemple, via un procès public où son nom aurait été sali, où elle aurait été humiliée. Joseph est juste car il se préoccupe avant tout de Marie. Il fait, comme Jésus le fera plus tard, il fait passer l'amour avant la loi. Quel exemple pour nous. Nous qui parfois on fait plutôt l'inverse. Hein. On juge et après on se rappelle effectivement qu'il faut aimer notre prochain. Là, Joseph il fait exactement l'inverse. Pardon. Force est de constater que Dieu a choisi un homme irréprochable, à la hauteur de la grâce, surtout si on le compare aux aïeux de la généalogie. Mais l'ange du Seigneur vient mettre un terme à la douloureuse méditation de Joseph, et il lui dit, au verset 20, « Ne crains pas, ce qui est en train d'arriver est l'œuvre du Saint-Esprit. » Le verset 20 répète ce que le verset 18 avait déjà dit, « L'enfant attendu s'inscrit à la fois dans la continuité de la généalogie et en rupture avec celle-ci. C'est l'action du Saint-Esprit qui produit cet engendrement. Cette formule, on peut se l'approprier. Ne crains pas, dans les moments de peur, dans les moments de doute, on peut demander à Dieu de venir nous dire la vérité sur tous les mensonges qui nous inquiètent. La peur n'est jamais un bon guide. L'ange continue et Joseph et Marie n'auront pas attendu l'écho du cinquième mois pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Et pas de grand débat non plus sur le choix du prénom. Ce sera un garçon et son nom sera Jésus. Jésus, l'équivalent grec de Josué, qui renvoie directement à la mission qui sera confiée à cet enfant. L'Éternel sauve, l'Éternel délivre. Il n'y aura de salut en aucun autre nom que celui de Jésus, qu'en celui de Jésus. Quelle révélation ! Le plan de grâce se dévoile à travers ce nom merveilleux. Et il a un deuxième prénom. Parce que pour éclairer davantage le lecteur, Matthieu cite au verset 23 la première d'une longue liste de citations de l'Ancien Testament. Cette citation vient du livre d'Ésaïe. Une jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Si le nom de Jésus renvoie à la mission fondamentale de l'enfant à naître, le nom d'Emmanuel renvoie à son identité première, Dieu avec nous, littéralement. Jésus est la manifestation extraordinaire de la présence de Dieu. Mais il est aussi cette présence de Dieu. Quand Matthieu conclut son évangile 28 chapitres plus tard, il sera encore plus sans ambiguïté. La formule de Dieu avec nous de Matthieu 1 devient « Je suis avec vous » dans le verset 20 du chapitre 28. Le Dieu créateur et tout-puissant est descendu du ciel pour nous. Il s'incarne en chair et en os et il restera avec nous pour toujours. Jésus a comblé l'espace entre Dieu et nous. Et même si nous nous sommes éloignés de lui, peu importe cette distance, peu importe les obstacles, Jésus sera Dieu avec nous, toujours présent, jamais loin. C'est un fil conducteur de tout l'évangile et les récits qui suivront n'auront de cesse de préciser cette notion. La suite du passage, et c'est là que je vais venir justement à notre partie d'échec, va nous montrer à quel point Dieu va conduire les événements. Je vous propose de continuer à lire le texte et nous passons au chapitre 2 et nous allons lire des versets 1 au verset 18.
Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel endroit l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné les instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret. Ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi. »
On va passer directement au verset 16.
Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit, et d'abondants sanglots amers, Rachel pleure ses enfants, et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus.
Dans une partie d'échecs, il y a 2 rois qui s'affrontent. Ici, nous avons l'enfant roi messianique et l'usurpateur tyrannique Hérode. Mais dans ce passage, nous allons aussi parler des adorateurs, que sont les mages, qui, contrairement à la tradition, vous le voyez ici, ne sont pas 3, ne sont pas des rois, ce sont des mages. Jusqu'à Matthieu 2, les événements n'avaient pas été localisés dans le temps et dans l'espace. Ces choses faites dès le verset 1. Jésus, né dans la ville de Bethléem, dans la province de Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem, et on est donc sous le règne du roi Hérode. Jésus naît donc dans la ville où est né le roi David. Les mages, ce sont des personnages qui sont associés à l'Orient, à des régions païennes et lointaines. Ce terme désigne des notables, tenus en honneur et en estime dans les cours royales de leur pays. Matthieu s'abstient de toute critique et parle de leurs compétences d'astronome ou d'astrologue, les deux sciences se confondant à l'époque. Première leçon de ce passage, aux extrémités de la terre, les observateurs attentifs des cieux entendent parler de la naissance de Jésus. Cet épisode confère une portée universelle, cosmique, à cet événement qu'on a trop tendance souvent à représenter de façon un peu trop simpliste à travers justement cette petite maisonnée, cette petite étable que l'on met sous le sapin de Noël. À deux reprises, dans 2 Pierre 1, verset 19, et dans Apocalypse 22, verset 16, Jésus est comparé à l'étoile du matin. Alors comment les mages sont-ils le lien entre cette étoile et Jésus? Ça, on ne le sait pas. Mais aussitôt, ces mages se rendent vers la capitale du royaume, Jérusalem. Si le roi des Juifs naît quelque part, ce sera forcément là. Mais ce n'est pas le roi messianique qu'il rencontre. Il rencontre le vieux roi tyrannique, Hérode. Paradoxalement, ce sont les instructions de cet usurpateur et de ses spécialistes des Écritures qui prennent le relais de l'étoile. Le texte dit « Il les envoya à Bethléem ». Dieu contraint le roi Hérode à indiquer aux mages la voie à suivre. Dieu se sert de qui il veut. C'est donc dans une petite bourgade au fin fond de nulle part que ce roi promis est né. La prophétie de Michée devait s'accomplir. Les mages s'engagent dans le bon chemin. Ils laissent Hérode. Les mages ne s'intéressent qu'au vrai roi et pas à cet ersatz de roi. Ils retrouvent l'étoile et comme la colonne de nuée dans le désert, l'étoile leur indique la direction et les guide. Revoir cette étoile remplit leur cœur des joies, au verset 10. Elle brille dans le ciel et leur montre le chemin jusqu'à la demeure du petit enfant. Les mages entrent dans l'humble maisonnée de Judée qui tient lieu de palais pour le vrai roi des Juifs. Ils ne sont pas étonnés. Dans une foi remarquable, ils sont enseignés par Dieu à discerner dans ce petit enfant le roi auquel ils sont venus rendre hommage. Un roi sans trône, sans couronne, sans les artifices qui étaient ceux d'Hérode. Ils discernent devant eux l'unique roi. Eux, socialement tout en haut, voient au nord dans cet petit enfant, qui était peu considéré à l'époque, d'un couple miséreux. C'est vers eux qui iront leur hommage. C'est devant lui qu'ils se prosternent. Ce récit est vraiment à part dans Matthieu 2. Il est une réponse au milieu des interrogations des autres passages. Il est un moment de don. Il est un moment de paix au milieu des projets de violence d'Hérode. Il est un moment de vérité au milieu des mensonges. Un moment de grande joie au milieu des pleurs. Les mages ouvrent leur trésor. Ils ont des cadeaux pour celui qui est le cadeau de Dieu. Et ils présentent à l'enfant roi l'offrande qui convient. De l'or, réservé au roi, qui évoque les perfections divines dans la nature de ce petit enfant, de l'encens, parfum du sanctuaire par excellence, toute la vie de celui qui vient de naître sera ce parfum de bonne odeur devant Dieu. De la myrrhe, résine odorante mais de saveur amère, utilisée pour embaumer les morts, image des souffrances à venir du Seigneur et annonce de sa mort. Ces cadeaux luxueux confirment la qualité de l'hommage des mages. Leur attitude, celle de suivre l'étoile, puis celle de se prosterner, elle est annonciatrice de l'attitude de beaucoup d'autres, qui plus loin s'approcheront de Jésus et se prosterneront devant lui, jusqu'à l'adoration finale en Matthieu 28, verset 17. Ces mages posent aussi, sans le savoir, le fondement de ce qui sera l'attitude normale de tout croyant, c'est-à-dire nous. La joie d'avoir trouvé ce qu'on cherchait, l'adoration profonde et l'offrande de soi. Avons-nous cette joie profonde devant Jésus ce matin? Que lui offrons-nous? Est-ce que vous avez amené de l'or, de l'encens ou de la myrrhe? Autrement dit, Une adoration en esprit et en vérité, la totalité de ce que nous sommes. Ou alors sommes-nous ici simplement pour lui offrir le superflu? Prenons exemple sur l'adoration des mages. Au contraire, le trouble d'Hérode et de Jérusalem, elle est annonciatrice de l'opposition. Oui, Israël, en la personne de son représentant royal, va se mettre dans l'opposition à ce Messie. Tout oppose Jésus, l'enfant roi, héritier de David, et le roi Hérode. Quel contraste entre ces deux personnages. Un peu d'histoire. Hérode Ier, l'usurpateur du trône, est un descendant d'Édom. Il n'a aucun droit à occuper cette place. C'est un pion qui s'est vu plus beau qu'il ne l'est en réalité. Il a obtenu ce trône par ruse, de la main de l'occupant romain. Une fois au pouvoir, il répudie sa femme légitime et épouse une juive de renom, Mariam, de la dynastie asmonéenne, ceux qui étaient au pouvoir avant l'arrivée des Romains. Ce sont les descendants des Maccabées. Ce mariage, Hérode le fait par stratégie, pour légitimer son pouvoir. Il nomme ensuite son beau-frère grand prêtre, mais moins d'un an après, il le fit exécuter. La popularité de celui-ci lui faisant de l'ombre. Trente ans de règne sans partage. Et l'historien de cette époque, l'historien juif Flavius Joseph, rapporte même qu'Hérode avait fait assassiner deux de ses fils par peur de trahison, mais aussi celle qu'il avait épousée quelques années plus tard. Donc vous voyez bien que c'est un personnage sanguinaire, violent, et ce que nous rapporte ce récit-là, finalement, était déjà une attitude qu'il avait reproduite bien avant. Mais ce qui est perturbant avec Hérode, c'est que c'est un personnage qui est très religieux. C'est un personnage qui, par exemple, avait fait des travaux pharaoniques pour agrandir le temple de Jérusalem. Ces travaux lui ont permis de s'attirer les bonnes grâces notamment des religieux de l'époque. Une religiosité qui lui permet d'ailleurs de savoir qu'un Messie était annoncé, qu'un Messie était attendu, et que cela pourrait un jour nuire à tout ce qu'il avait entrepris pendant ses 40 années de règne. Cette peur semble l'avoir hanté toute sa vie. Et quand les mages débarquent et posent la question « Où est le roi des Juifs ?», le voilà déstabilisé. En même temps, quand on est roi et quand on vous pose la question « Où est le roi ?», c'est un peu vexant. Cette annonce des mages, celle de la naissance d'un roi davidique, provoque en Hérode et en Jérusalem un trouble profond, nous dit le texte. L'annonce de la naissance de ce roi davidique aurait dû être un sujet de joie pour tout le peuple. Le Messie est né, mais elle ne le fut que pour un petit nombre de fidèles qui attendaient sa délivrance. Pour la plupart, malheureusement, c'est le trouble et l'indifférence. Pas plus que le monde d'aujourd'hui, le peuple à l'époque ne ressentait le besoin d'être sauvé. Il connaissait la servitude sous le joug d'un roi tyrannique, d'un occupant romain oppresseur, et Satan rendait cette nation insensible à la venue de son sauveur. Ce sont les mages de Babylone qui sont en joie, et ce sont les gens de Jérusalem qui sont sceptiques, distraits. Ce sont les mages de Babylone qui sont, on l'a dit, hein, en joie. Les mages viennent honorer Jésus, son peuple l'ignore. Le roi des Juifs est né, ce sont les nations qui l'adorent. C'est une mise en garde pour nous. Quand Jésus reviendra, quelle sera notre réaction? Hérode convoque les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Ils sont bien instruits dans les Écritures, mais ils sont incapables d'en tirer un enseignement spirituel. Ainsi, eux qui étaient censés encadrer le peuple, montrer la voie, le chemin, ils ont laissé ce peuple dans les ténèbres. Ils sont coupables de son ignorance, et cette ignorance conduira à son indifférence. Dieu veut nous apprendre ainsi que ce n'est pas la quantité de ce que nous savons qui nous est utile, mais c'est ce que nous en faisons. Ces spécialistes de la loi vont faire pire encore. Ils vont mettre leur connaissance au service de l'adversaire. La question qu'Hérode leur pose, elle est théologique. Où doit naître le Messie? C'est une, on l'a dit, une partie du judaïsme de l'époque attendait ce moment. La réponse des prêtres s'appuie, comme l'avait fait Matthieu au chapitre 1, sur une référence de l'Ancien Testament. Il fait lui aussi une lecture messianique de ce texte, dans le prolongement des spécialistes de la loi. Michée 5, verset 1, annonce Bethléem. Hérode accepte la vérité de cette prophétie, mais il refuse l'évidence de se soumettre au Dieu qui parle, et pire, il tente de duper les mages. Allez-y et tenez-moi informés. Il les transforme en agents de renseignement. Mais ce n'est pas de la curiosité, c'est une menace. Il veut plus d'infos pour tuer ce rival dans l'œuf. Il est terrorisé à l'intérieur de lui, de ce que peut devenir ce simple nouveau-né. Il faut l'éliminer avant qu'il ne devienne adulte, et en capacité de l'évincer. Hérode Ier le Grand, face à ce petit enfant, en réalité il ne sait pas qu'il a en réalité affaire à plus fort que lui. Le voilà placé devant la gloire divine, devant l'étoile du matin et l'oracle prophétique, et il refuse de s'incliner. Au contraire, il se sert de cette révélation pour affermir sa domination et garder son privilège. Aujourd'hui encore, de tels hommes utilisent les Écritures pour leur propre usage, en vue d'accomplir leur dessein orgueilleux. Le piège est toujours là. Heureusement, les mages ne reviendront pas. Dieu est intervenu pour éviter qu'ils ne tombent dans le piège des Roms. Et la duplicité de ce personnage va alors se voir au verset 16. Lui qui se pensait rusé, le voici trompé et toute sa malfaisance va se déverser. Il devient furieux et va faire périr les enfants de Bethléem. Rappelons ainsi un sombre moment historique du peuple juif, le massacre des garçons nouveau-nés hébreux à la fin du chapitre 1er du livre de l'Exode. Personne ne s'oppose à la tyrannie de ce vieil usurpateur qui avait mis de côté tous les grands prêtres et les scribes du peuple. Ils sont complices de cette terrible rafle de tous les garçons de moins de 2 ans de Bethléem. Hérode, le tyran cruel, n'hésite pas à ordonner ce crime abominable. Lui qui est prêt à tout, au pire, pour garder sa couronne. L'indicible accompli, Hérode pense qu'il n'y aura plus de revendication d'un autre roi des Juifs, qu'il n'y aura plus d'adorateurs venant le rendre hommage. Il peut mourir tranquille. Et il va mourir. Mais finalement, il a raté la seule occasion de se racheter. Satan se cache derrière cette scène. C'est lui qui tient ce miroir de mensonge. Hérode se voit trop fort, trop beau, trop rusé. Les scribes se voient trop instruits. Personne ne va de là du miroir, sauf les mages. C'est Satan aussi qui cherche à détruire depuis Genèse 3, verset 15, la descendance de la femme qui doit lui briser la tête. Lui et son pantin Hérode pensent avoir gagné. Ils pensent avoir fait échec et mat. Eh bien non, en réalité, c'est lui qui est en échec. Car ce projet de mort d'Hérode et de Satan va être déjoué, et on va le voir, c'est le projet de vie de Dieu qui va l'emporter. Car l'enfant de Jésus est en réalité un vulnérable, invulnérable. Lisons la suite du passage. Partie du verset 13. Verset 13, verset 14, et ensuite verset 19, jusqu'au verset 23.
Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, amène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans tous les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue.
Direct au verset 19.
Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, en Égypte, et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, « On l'appellera le Nazaréen. »
À peine né, Jésus est donc la cible de la haine des hommes conduits par Satan. Hérode a tramé ce complot terrible contre cet enfant, mais il ne sait pas qu'au-dessus de lui se trouve celui qui connaît les pensées des hommes, pour citer le psaume 94. L'effort conscient et organisé pour tuer Jésus va se heurter à l'effort conscient et organisé pour le protéger. C'est Dieu le grand maître de l'échiquier. C'est lui qui place et déplace, tout en laissant place au libre arbitre de chacun. Dans ce contexte d'insécurité, devant tant de puissance et de stratégie déployée, on a cette petite famille seule, dénuée de tout. On a cet enfant, décrit 6 fois comme un petit enfant dans la version de Louis II. Dieu a fait naître le Messie dans la fragilité, dans la plus complète vulnérabilité, car en effet, rien n'est plus vulnérable qu'un nouveau-né. Mais cet enfant va être placé sous la protection du Dieu Tout-Puissant, et rien ne pourra l'atteindre. Le choix de Dieu a été d'incarner sa puissance dans l'humilité et la faiblesse apparente, tout en déjouant la puissance apparente, mais illusoire au final, des hommes. 1 Corinthiens 1, verset 21 dit ceci : Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Nous aussi, notre force doit venir de Dieu et pas des puissances de ce monde. Dieu prend soin de son Fils. Il va le soustraire à la méchanceté de ce roi, et il le fait pour nous. Car de Jésus dépend notre salut. Nous aussi reconnaissons notre vulnérabilité, notre fragilité, nos faiblesses et notre dépendance. Nous sommes aussi dans un contexte d'insécurité, d'activité satanique intense, et nous avons besoin de la protection de Dieu. La boucle est bouclée au verset 19. L'ange du Seigneur intervient en songe, comme il a déjà fait au chapitre 1. Il révèle à Joseph la menace. Hérode, la personne menacée, l'enfant, et il apporte la solution, la fuite. L'enfant doit d'abord fuir en Égypte, dans un retournement de situation qui fait de la terre hostile de l'Exode une terre de salut, quand la terre d'Israël devient dangereuse. Jésus apparaît pourchassé comme plus fort que sa famille, qui doit fuir loin de son pays. Comme Moïse enfant, Jésus dépend pour son salut des adultes, en l'occurrence ici, Joseph, une véritable tour et pas un simple pion, qui va le prendre en charge, puis le ramener quand la menace aura disparu. Mais derrière Joseph, c'est bien la main de Dieu qui conduit. Pour continuer sur la métaphore des échecs, c'est grâce à ce roc, qui consiste à mettre son roi à l'abri quand la menace guette, que l'enfant roi Jésus échappe au massacre in extremis. Dieu place et déplace sur cet échiquier, mais le plan de Dieu laisse toute sa place aux acteurs humains, qui sont plus que de simples pions, car ces pions démontrent leur foi, et c'est le cas ici de Joseph, qui intervient ici pour la dernière fois d'ailleurs. On ne verra plus le père adoptif de Jésus dans les chapitres suivants, mais il se conforme ici sans discuter aux directives de l'ange. Il pardonne à lui-même, soit juste après le rêve, et il obéit immédiatement à la volonté de Dieu. La répétition au verset 14 des instructions de l'ange et du verset 13 le confirme. La boucle est bouclée. Joseph est bien le juste qui agit selon la révélation de Dieu. Il est un modèle qui entraîne toute sa famille dans l'obéissance à Dieu et vers son salut. Au contraire d'un certain Abraham que nous avons déjà étudié et dont nous avons fait mention la dernière fois. Une fois la menace estompée, Joseph revient d'Égypte, dans les derniers versets, avec le petit enfant et sa mère. Mais le retour d'Égypte ne met pas fin à l'adversité. L'usurpateur Hérode est mort, mais Archélaüs, son fils, est monté sur le trône. Joseph a peur et il a raison, mais Dieu, dans un quatrième songe, vient au-devant de cette appréhension. Joseph ne retournera donc pas en Judée. Dieu apporte son soutien miséricordieux et ses directions. Il fait de même pour nous et a les mêmes égards vis-à-vis de nos faiblesses et vis-à-vis de nos peurs. Il y a aussi une autre leçon pour nous. Est-ce que c'est l'âge de fuir quand la menace pèse sur nos proches ? Faut-il jouer au super-héros et aller au-devant du danger ? Ce passage montre ce que doit pas faire un chef de famille. Ce passage montre que parfois fuir, c'est suivre la volonté de Dieu. Tout en restant sous la conduite de Dieu, Joseph met sa famille en lieu sûr. Et le lieu sûr, c'est là où la menace est absente, mais aussi et surtout là où Dieu le conduit. Les deux sont indissociables. La famille s'installe donc en Galilée, une région entourée de villes païennes, où beaucoup de non-juifs habitaient, et plus précisément à Nazareth, un petit village de quelques centaines d'habitants où ils avaient précédemment habité. Notre Seigneur devait être considéré comme un habitant de cette ville. Joseph accomplit donc par là une autre prophétie, selon les paroles du prophète Ésaïe citées plus loin au chapitre 4. Des païens de la généalogie, aux mages venus d'Orient, puis à la Galilée des nations, il y a quelque chose qui se précise ici, quant au lien de Jésus avec les non-juifs. Et c'est quelque chose que nous aurons l'occasion de voir ensemble. En conclusion, que pouvons-nous justement synthétiser de ce passage ? Dans cet immense jeu d'échecs aux conséquences tragiques, les mouvements étaient nombreux. De l'Orient à Bethléem, de l'Égypte à Israël, et enfin la Galilée à Nazareth. Matthieu nous présente deux rois, Hérode, sombre, tyrannique, cruel, mis en place par les hommes, d'une apparente piété, entouré de religieux complices et coupable de ses agissements, et Jésus, présenté 6 fois comme un petit enfant. Sans armée, sans richesse, mais c'est lui le Messie promis, entouré par sa famille, mais surtout protégé par la main de Dieu. Ici, ce n'est ni le trône, ni la couronne qui fait la légitimité du roi. Hérode est mort, échec et mat. Dieu est vainqueur. Le règne despotique de l'usurpateur a pris fin depuis longtemps. Mais au contraire, le règne de Jésus est, lui, sans fin. La naissance du Messie provoque un clivage. Marie, sa mère, le reçoit. Joseph, son père, l'adopte. Et de manière inattendue, comme l'a été la naissance de Jésus, ce sont des non-juifs venus de régions lointaines qu'il honore comme roi et qu'il adore, préfigurant ainsi notre adoration. Au contraire, son peuple reste indifférent à sa venue, et l'opposition viendra des autorités en place en Israël. Avec la naissance de Jésus, deux royaumes se confrontent. D'un côté, celui issu de la folie des hommes, et de l'autre, celui issu de la sagesse et de la souveraineté du plan de Dieu, qui s'appuie sur d'humbles hommes et femmes de foi. Le royaume des hommes ne peut rien face au royaume de Dieu. Le plan des hommes ne peut rien face au plan de Dieu. Prions. Seigneur, dans ce passage, nous avons vu à quel point tu conduis les choses. Fais-nous entrer dans ton plan, Seigneur. Que nous puissions, en obéissant à tes directives, entraîner toute notre famille dans l'obéissance à tes directives, et ainsi entraîner tout le monde dans ton salut, dans ton plan, Seigneur, comme ce fut ici le cas de Joseph, un modèle pour nous. Seigneur, nous voyons ici aussi que, bien que vulnérable, comme l'était l'enfant Jésus, comme nous pouvons l'être parfois, tu nous rends au contraire invulnérables face au plan de Satan. Tu guides les événements, Seigneur. Et parfois, comme nous ressentons de l'insécurité autour de nous, quand nous ressentons au contraire des tensions, repensons à cette histoire. Repensons à Joseph. Repensons à ce geste incroyable que tu as fait de protéger ce nouveau-né, ton fils, et toute la sainte famille avec elle. Seigneur, que nous puissions aussi enfin être des adorateurs, comme l'ont été les mages. Que toujours nous puissions venir à toi, même si les circonstances sont dures, remplies de cadeaux. Alors des cadeaux spirituels, bien sûr. Que nous puissions toujours être en esprit et en vérité, Seigneur. Et que, malgré les incertitudes, nous puissions toujours avoir confiance en toi, dans ton plan audacieux. Tu es le Maître, Seigneur. Tu conduis toutes choses. Amen.